Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Mercier, chef cuisinier et bientôt restaurateur qui va ouvrir un restaurant, Le Fief, à Paris. Bonjour Victor.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Avant de nous parler de ce beau projet qui va prendre vie dans très peu de temps, j'ai envie de revenir sur toi, sur ton parcours, sur quel élève tu étais.
Quel élève ?
Ouais, on va remonter aussi loin.
Ok.
T'es pas obligé de passer par la maternelle.
Hein. Non. J'étais un bon élève, on va dire, mais qui a pas trop su trouver sa place, je pense, dans notre système éducatif, on va dire. Donc c'est vrai que j'étais pas dissipé, mais je décrochais assez facilement. Mais les résultats étaient là et puis voilà, j'ai eu mon bac avec mention, tout s'est bien passé. Et je me suis longtemps posé la question si après je devais aller vers, on va dire, les études supérieures. Mais finalement, c'est la cuisine qui est arrivée.
Et comment c'est arrivé ? Est-ce que c'est de famille ? Est-ce que
j'ai un père qui cuisine pas mal, qui était au Goemio, donc il n'était pas dans le, on va dire, examinateur, mais c'était vraiment, il était dans le service publicité, mais voilà, il faisait des restaurants avec Goemio, et ma mère, par la force des choses, le suivait dans le restaurant, et elle gère des restaurants d'entreprise, donc aussi, j'ai toujours
eu une dynamique food.
Après, mes parents sont pas restaurateurs ou quoi, mais c'est vrai que c'est une famille assez épicurienne, on va dire.
Et donc après le bac, tu as fait quoi?
J'ai direct enchaîné avec j'ai commencé la cuisine, première année d'apprentissage, voilà quoi. 80 heures par semaine, on est dedans, c'est parti, c'est lancé, c'est très dur, on se demande si c'est fait pour nous, si on va tenir. On a je pense la première année, si on tient, généralement on a de bonnes armes pour tenir après. Si on tient pas la première année, on change quoi.
Tu voulais ouvrir ton restaurant ou tu voulais
J'avais dit dès le premier jour, j'avais fait un stage dans un restaurant étoilé à Paris, et j'avais appelé mon père et il me dit alors comment ça s'est passé. Je lui dis c'était super, mais je pourrais pas travailler pour les autres. Et donc ça, je l'ai dit le premier jour quoi. Bon, j'ai quand même tenu 5, 6, 7 ans à bosser pour les autres.
Et pourquoi tu voulais avoir ton restaurant, ta marque finalement ?
Parce que il y a un phénomène dans la cuisine, je pense, c'est qu'il y a il faut pas avoir aucune présomption dans ce que je dis, mais il y a les ouvriers. Donc par exemple, les meilleurs ouvriers de France, pour moi c'est des cuisiniers, c'est des mains.
C'est des opérationnels en fait.
Les meilleurs ouvriers de France, c'est des chefs, créatifs, c'est des chefs de cuisine, mais c'est des professionnels exceptionnels. Mais dans les meilleurs ouvriers de France, il y a ouvriers, donc ça veut dire que c'est des mains. Et je pense qu'il y a des gens qui seront toute leur vie d'excellents ouvriers.
Des exécutants finalement.
Ouais, mais ça c'est une qualité dont on a besoin.
C'est complémentaire. Il y a les créatifs et les exécutants.
Moi par exemple, je sais que je suis pas un très bon ouvrier. Ça je le sais depuis le début.
C'est pas bien reproduire les plats.
J'ai du mal à reproduire. J'ai du mal à.
Pourtant t'as fait Top Chef.
Ouais, mais Top Chef au final on est son propre chef.
C'est pas faux.
C'est nos créations, c'est nos plats, c'est Tandis que voilà, moi j'ai toujours su que j'étais pas fait pour refaire faire. Enfin, j'étais fait pour faire savoir ou faire en quelque sorte.
Mais, créer.
Ouais, voilà, moi c'est plus là où je pense j'ai des qualités. C'est plus sur la création, c'est plus sur le management, mais c'est vrai que en qualité de on va dire de cuisinier pur et dur où on doit suivre des fiches techniques ou suivre une sorte de répétition, une recette, c'est vrai que là-dessus moi je serais toujours moins bon que d'autres.
Donc toi t'es Lucile à la louche dans les recettes.
Ah ouais, moi c'est à l'œil. Moi j'ai très peu de livres de cuisine. Je regarde évidemment tout ce qui se passe dans le monde de la gastronomie, mais j'ai pas de livre de cuisine.
Et donc, pour en revenir à ton parcours, tu me dis, donc, d'abord, t'es un exécutant.
Oui, bien sûr.
Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait?
Bah, c'est ce qu'il faut. Enfin, pour apprendre la cuisine, il faut apprendre la cuisine. donc il faut aller travailler pour des gens. Il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin, accepter, les remarques, parfois parce que ça peut être un monde un peu difficile, la cuisine. Donc, il faut accepter tout ça. Et apprendre, et puis dès qu'on a atteint le niveau auquel on aspire, après je pense qu'on peut se lancer.
Après t'as fait un tour du monde avant Top Chef.
Ouais, voilà, avant Top Chef. En fait Top Chef s'est décidé après le tour du monde. Le tour du monde en fait c'était vraiment parce que j'en avais marre, je voulais changer d'air, d'atmosphère, et je suis parti avec mon meilleur ami qui lui aussi voulait changer d'air au même moment. Et on s'était dit qu'on allait faire un tour du monde mais un peu utile. On voulait pas être simplement des voyageurs en quelque sorte. On voulait faire un peu plus que ça. On voulait avoir un projet qui pourrait intéresser d'autres gens. Et voilà. Donc on a fait un documentaire sur la souveraineté alimentaire. Donc l'objectif en fait, c'était de réaliser un petit documentaire sur tous les acteurs du changement lié à l'alimentation. Donc pendant 15 mois et non pendant 10 mois et 15 pays, on a choisi à peu près 3-4 acteurs vraiment avec des secteurs bien différents. Donc on allait voir des apiculteurs, des ostréiculteurs, des conchiculteurs,
C'est quoi conchiculteur?
C'est sur tout ce qui est moules. D'accord. Moules en Nouvelle-Zélande. Par exemple, la moule en Nouvelle-Zélande est réputée mondialement parce qu'ils ont vraiment trouvé une façon d'élever ce bivalve qui d'une façon hyper vertueuse, et effectivement c'est les meilleurs là-dessus. Et voilà, donc en fait l'idée c'était de présenter un peu tout ce petit monde en disant bon bah on a 2 milliards de personnes à nourrir en plus en 2050, 25% de gaz à effet de serre issus de l'agriculture, un tiers de nos ressources qui sont jetées à la poubelle, on peut avoir potentiellement des solutions. Et elles existent partout dans le monde. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, si il y a un mec qui se bouge un peu en Bolivie ou au Laos ou au Cambodge, ça se trouve, moi, je peux le faire en France.
D'accord. Et ensuite, t'as fait Top Chef.
L'idée de Top Chef, en fait, c'était pour médiatiser ce qu'on allait faire. Donc là, le documentaire, il va sortir, je pense, à la fin juillet, mais on va être, comme d'habitude, un peu en retard. Donc, ce sera peut-être septembre, je sais pas. Mais donc, en gros, l'idée, c'était de faire Top Chef pour...
Pour toi, être dans la lumière un peu plus aussi.
C'était pour mettre en lumière cette chose-là. Et puis moi, c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Quand on est un an en liberté totale... Se dire je vais ouvrir un restaurant, je vais travailler pour quelqu'un, être sous-chef ou les horaires, ne pas être vraiment vraiment libre, je me suis dit ma meilleure chance ce serait de faire une émission où je vais peut-être percer et essayer de ensuite transformer la chance que j'ai eue en quelque chose de...
Et finalement, en fait, créer aussi ton identité. Enfin, ton identité peut-être que tu vas pouvoir trouver dans ton futur restaurant.
Ça, honnêtement, je pense pas que c'est Top Chef qui l'a vraiment...
Mais qui l'a fait savoir, peut-être.
Ouais, après c'est... mais en soi, Top Chef a pas eu un réel impact sur la cuisine que je fais au quotidien. c'est plus un impact médiatique, mais ou après des remises en question, parce que c'est vrai que Top Chef, on se pose constamment des questions, on est seul dans sa chambre, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire demain.
C'est compliqué du coup comme expérience.
C'est hyper dur, Top Chef. Franchement, moi, j'étais pas loin du Lucerne, hein, vraiment. Hein.
T'es allé en finale, donc.
Ouais, bah, c'est long. Non, mais enfin, faut se dire un truc, c'est que quand on voit l'émission, ça dure 2 heures, mais au final, nous, c'est c'est 3 jours de tournage pour 2 heures d'émission. Au final, sur les 3 jours, va peut-être y avoir 3 heures d'épreuve. Donc, le reste, c'est de l'attente, c'est la boule au ventre, c'est le stress qui monte. Enfin voilà. Donc tout ça, ça joue beaucoup. Il faut se dire un truc, c'est que maintenant les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux, ils ont tellement explosé que on est vraiment on est regardé mais constamment, et on est limite espionné sur nos moindres faits et gestes. Et moi, ça aussi, ça fait partie du stress. Moi, je le considérais beaucoup aussi pendant l'émission. Si je dis ça, comment les gens vont le recevoir. Et ça, c'est hyper flippant, quoi.
Si, d'autant plus que t'es surmédiatisé, que tu passes un peu de l'ombre à la lumière. Donc forcément. Ouais.
Et puis j'ai le sentiment aussi qu'il y a quand même limite c'est un peu cette jouissance de regarder l'émission et de la critiquer de critiquer les candidats de la même façon qu'on va critiquer des candidats de télé-réalité.
C'est une forme de télé-réalité en fait.
Oui. Mais non. Je trouve quand même que Top Chef, les candidats ont ils ont quelque chose dans les mains, quoi.
Bien sûr, mais en fait, par télé-réalité, c'est juste que tu t'exposes autant au public en étant filmé 24 heures, presque 24 heures sur 24.
Ah non, on est filmé 2 heures. Enfin, il y a que les épreuves qui sont réellement filmées.
D'accord.
En soi, on n'est pas fliqués, quoi. Top Chef, et on va dire, je dirais plus que c'est une émission de cuisine télévisée, mais c'est pas une émission de cuisine télé-réalité.
Très regardée en France. Donc,
j'aime bien le dire, mais on est, vous avez été 63 millions à pas regarder l'émission. Donc au final, c'est que 3 millions, c'est pas. Donc oui, c'est regardé, mais il faut après mesurer la chose. En tout cas, c'est sûr que. Ça a toujours beaucoup de succès et c'est hyper porteur.
Et donc depuis Top Chef, donc t'as échoué entre guillemets puisque t'es allé jusqu'en finale. Finale. Après, qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que déjà t'as dû gérer un petit peu ta nouvelle notoriété et puis ensuite pourquoi t'as pas tout de suite créé ton restaurant en fait ? T'as attendu un petit peu ?
Déjà parce que je me posais la question si je voulais ouvrir un restaurant. Moi, l'idéal, je m'étais dit après la finale, je vais avoir une offre de rêve et je vais signer. Et je l'ai eu. Et finalement, je l'ai pas faite parce que bon, je sentais un peu l'entourloupe, ça s'appuyait un peu. Et puis après, je me suis dit je vais me provoquer ma propre chance, quoi. Et ouvrir un restaurant à Paris, c'est compliqué, c'est long, c'est laborieux. Et donc, moi, si j'avais pu l'ouvrir en juin, je l'aurais fait, mais là...
Surtout que ce que j'ai vu, c'est que ton restaurant, tu veux qu'il ait le moins d'impact carbone possible. Comment est-ce que tu vas faire réaliser ça ?
Le restaurant, il va s'appeler Fief pour Fait Ici en France. Donc déjà, on...
Fait Ici en France ?
Ouais.
T'as déjà pensé au nom
Ouais, bien sûr. C'est du branding. Hein.
Ouais, c'est du branding, oui, tout à fait. Mais ça va m'intéresser, du coup, dans l'empreinte, le branding.
C'est du branding, déjà parce que pendant le tour du monde, je me suis rendu compte que la mondialisation fait beaucoup de mal aux produits eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'on trouve en Inde du coca, il y en a partout. On peut manger italien au Japon. Enfin voilà, je trouve ça m'ennuie un peu.
Japonais en Italie, quoique en Italie, on voit moins de restaurants japonais.
Bah oui, ça m'étonnerait pas quand même. Mais c'est voilà, je trouve que ça fait, c'est pas du tout un côté nationaliste, c'est juste un côté de se dire à mon sens on fait n'importe quoi, surtout qu'en plus on a les chiffres maintenant, on sait que les importations ça a un impact qui est colossal.
En fait, t'es pour le locavore.
Ah ouais, totalement.
Donc le Fief, ce sera locavore, ce sera du local de saison.
Ouais.
Produit de saison.
Après produit de saison, maintenant on a des techniques culinaires qui existent depuis des centaines d'années.
Aussi.
Ah non.
Pas les surgelés.
Bah pff.
Je pensais, quand on allait chez Picard, on était
Picard, moi, j'aime bien, mais après, non, je pense que les gens ont un peu de mal à se dire, bon, ça, c'est un poisson qui est congelé ou... Non, c'est plus des produits, des techniques type lactofermentation où là, vraiment, on va trouver des moyens de conserver des légumes, notamment pendant quasiment un an.
Sans perdre la teneur en vitamines.
Ah non, en les augmentant même. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est fou ça.
Ouais. Voilà. Donc maintenant, il y a des façons de, on va dire, battre la nature sur certaines façons de cuisiner, sur certains produits. Mais ouais, c'est devenu simplement c'est du bon sens pour moi. Je me dis
Pas de gaspillage alimentaire.
Il y a toujours un peu de gaspillage, je pense. Bah évidemment, parce que le client va vouloir que sa tranche de poisson soit, quand à partir du moment où c'est un gastro, il va vouloir qu'elle soit hyper bien taillée, parce que c'est ça aussi l'excellence. Donc il y aura forcément un peu de perte. Après, ça peut partir aussi pour les repas du personnel ou ce genre de choses. Donc évidemment, mais je pense qu'il y en aura toujours un peu. Il y en aura toujours un peu.
Tu préfères être transparent, c'est bien.
Bah il faut l'être. Il y a une telle attente maintenant quand c'est un restaurant d'un mec qui a fait Top Chef ou c'est un restaurant étoilé où je vais juste payer 50 euros mon plat ou mon entrée plat dessert, il y a forcément une attente et je pense que les gens attendent peut-être grâce à Top Chef une certaine précision et donc du coup voilà des plats qui soient mieux présentés et donc où il y a forcément une telle discipline dessus qu'il y aura forcément des pertes sur certains points.
Et d'ailleurs, est-ce que tu as peur que Fief soit brandé un peu Top Chef ou pas?
Oh, ça va l'être.
Ça va l'être.
Ça va l'être. Après, la chance que j'ai aussi, c'est que j'ouvre très tard après mon passage. Donc, au final, je vais peut-être un peu m'en sortir là-dessus. Je vais avoir que le bon de Top Chef et le moins bon, je pense
oui,
que je l'aurai
pas. Tu seras plus dans l'actualité chaude, oui. Donc en fait, les gens auront plus envie de te taper trop sur les doigts à ce moment-là, donc les critiques...
Oui. Je pense que ça, c'est ce qui va se passer, ouais. Après, je pense que aussi les critiques vont avoir qu'une seule envie, c'est de venir et de me défoncer la gueule. parce que justement, ça fait du bien de taper sur les émissions de télé-réalité. Enfin, tu vois, je l'ai dit là cette fois-ci.
Ah bah voilà, tu vois. Donc finalement, j'avais bien raison.
Enfin, sur les émissions de cuisine télévisée. et je pense qu'il rêverait aussi de dire que. Il y a deux écoles pour moi. Il y a soit l'école, finalement, en fait, c'est des mecs qui savent cuisiner et Top Chef est légitime. Et non, mais en fait, ils savent pas cuisiner. Cette émission, elle dessert la profession. Voilà. En revanche, moi, je mets quand même... je challenge beaucoup. Je considère quand même qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ont tendance un peu à cracher sur l'émission, mais aussi, ils se rendent pas compte de l'impact positif que ça pourrait avoir sur leur business. Généralement, je crois, après Top Chef, c'est 40 voire 50% de plus sur le CA. Donc, la question est-ce que je préfère avoir un restaurant vide et, on va dire, garder mon intégrité la plus totale ou faire une émission de cuisine qui peut vraiment nous donner en plus une très bonne image, hein. Moi, je me plains pas de l'image que j'ai et que j'ai renvoyé pendant l'émission, j'en suis très content. Et en plus, potentiellement, lors de son ouverture, moi je sais que je vais remplir quand même, au moins sur quelques semaines à l'ouverture, parce que ça va être attendu.
Et en termes d'univers, Fief, ce sera quel univers à l'intérieur? Ce sera très gastro du coup?
Non,
très...
en fait, je voulais un restaurant qui soit vraiment pour tout le monde, donc j'ai fait deux espaces dans le même lieu. Donc j'ai un grand lieu, j'ai 170 mètres carrés, donc c'est un gros bébé. Donc j'ai 8 places assises, donc là je voulais un truc très un peu cocoonisé au bar parce que je trouve qu'il y a une vraie relation.
Donc on voit cuisiner.
Ouais, bien sûr.
Ah, c'est génial ça.
Donc là parce que je trouve qu'il y a vraiment une relation qui s'installe avec le cuisinier et les convives parce que je trouve que là aussi c'est la gastronomie évolue. On fait plus que cuisiner aux gens, maintenant on doit les recevoir. Il y a une vraie nuance. C'est pas genre juste j'envoie mes plats et tu me files ton fric à la fin.
En fait, c'est expérientiel.
Ouais, je trouve que les gens maintenant, on doit établir un vrai contact aller en salle, ça c'est hyper important. Donc voilà, donc j'ai cet espace pour 8 couverts où là on est sur un menu un peu gastro en 6 plats. Et ensuite, j'ai 34 couverts où là on est plus sur un espace tapas, assiette à partager, toujours avec des produits français hein, mais beaucoup plus décomplexé, on va dire, plus canaille, plus moins cher.
Et donc tu rends aussi accessible, donc plus c'est pas accessible. Que haut de gamme.
Je voulais les deux parce que je me dis en fait je fais ce que fait tout le monde, c'est-à-dire ouvrir un gastro et ouvrir ensuite un bistrot, mais je le fais dans le même lieu. Et c'est vrai que moi ça me dérange toujours de se dire par exemple ouais mais je peux pas aller chez tel chef parce que son menu est trop cher. Ouais mais aller dans son bistrot. Bah ouais mais c'est pas le même lieu, c'est pas la même chose en fait. Et moi, je voulais vraiment que les gens, au contraire, puissent se sentir un peu tous ensemble, quoi, au même niveau.
Et si tu devais me donner un adjectif pour décrire un peu ta cuisine, toi, qu'est-ce qui la qualifie un petit peu ? Elle est comment ? Elle est... T'as droit à deux, sinon.
Je dirais... Ça, en revanche, Top Chef a eu un petit impact là-dessus. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il faut aller maintenant vraiment à l'essentiel. Donc arrêter de partir un peu dans tous les sens et l'audace, voilà. Donc je dirais
audacieuse ta cuisine.
Je dirais directe et audacieuse, ouais. D'accord. Enfin en tout cas.
Et donc on va la retrouver dans tous tes plats.
Bah c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Je me dis bon bah ça est-ce que c'est déjà vu, est-ce que ça a été fait. Après évidemment ça revient toujours un peu à la même chose. Pour moi, il y a qu'une seule personne qui vraiment réinvente chaque année la cuisine, c'est René Redzepi à Noma au Danemark. Mais c'est vraiment le seul. Mais je trouve qu'on se copie tous un peu, on prend tous chez l'un, chez l'autre.
Et comment justement on peut se démarquer aujourd'hui?
Bah justement.
En termes d'identité et de cuisine et de marque et de restaurateur. Pourquoi est-ce qu'on irait manger au Fief et pas dans un autre restaurant, typiquement? Je te fais dépasser en spot non. De pub, mais justement, ça m'intéresse de connaître aussi cet ADN de ta cuisine qu'on va retrouver dans ton restaurant.
Bah, déjà, c'est le concept pour moi qui vraiment est maintenant, qui devrait pas en être un, en fait.
C'est vrai, mais ça, je te rejoins entièrement. C'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde doit être éco-responsable, avoir une consommation responsable. Mais beaucoup ne sont pas convaincus. Toi, t'es un convaincu d'abord.
Ah bah ouais. Ah ouais. Voilà,
non, mais parce que beaucoup le font parce que ça plaît et que c'est tendance. Maintenant, ça devient même trendy de faire du low-carb, de faire du veggie, etc. Et peu en ont vraiment conscience ou envie, en fait, de le faire.
Bah, ils le font dans un sourcil marketing.
Tout à fait.
Parce qu'il faut le faire. Attention, hein, je fais pas de globalisation, de généralisation.
Non, mais c'est vrai que de plus en plus, il y a même les marques, quand tu le regardes, les marques de produits, soudainement, une nouvelle conscience. Ils ont même créé des emplois autour de la RSE, etc. Et donc, dans la restauration, beaucoup de restaurants, même au menu, ajoutent des burgers veggie, des choses
pseudo. C'est parce qu'il y a une demande.
Exactement. C'est parce qu'il y a une demande. Mais toi, tu crées ce restaurant parce que tu as, enfin, toi, c'est ta conviction.
J'impose l'offre. C'est ça. Enfin, moi, je le fais pas je le fais pas parce qu'il y a une demande. Enfin, même si je pense qu'il y a une demande. Mais là, en soi, là, c'est, j'impose tout, là. Je dis, bah, malheureusement, vous aurez pas de café chez nous. Vous aurez pas de chocolat chez nous.
On aura pas de café, mais on aura quoi?
J'ai travaillé un peu sur divers
essais.
C'est
pas local, du coup, le café?
Bah, non.
Ah oui, donc c'est vraiment ultra local.
Ah bah ouais.
Donc ce sera quoi?
Bah on a, c'est très drôle. J'ai une petite anecdote là-dessus. Je commençais à travailler un peu sur l'alternative au café qu'on avait proposé. Et donc le restaurant s'appelle Fief, donc je m'étais dit je vais l'appeler Cafief, branding. et donc je me dis ok, j'ai de la chicorée en France. Il y a un mec en Bretagne qui fait de l'orger, donc c'est de l'orge torréfiée. Et on fait du sarrasin. Je me suis dit, si je mixe ces trois-là, ça va me donner un goût de café qui va être génial, quoi. Je fais les essais, je me dis, oh putain, c'est ouf et tout, ça va vraiment, ça peut vraiment marcher. Et il y a quelques semaines, on m'envoie un message, on me dit, t'as vu, il y a Florent Laden, parce qu'il a ouvert un restaurant dans le Nord, il fait un café local. Je fais non. Et donc en fait, sans se parler, parce que lui il est hyper locavore aussi, mais lui encore plus que moi, parce que moi je me limite à la France,
on va dire l'Hexagone. Limite à la région.
Ouais.
Ouais.
Donc c'est encore plus fort. Et il a sorti un café, donc chicorée, orge et graines de tournesol.
Ah, c'est pas de sarrasin.
C'est quasiment la même chose, mais en soi, on s'est pas passé le mot, quoi. Je l'ai pas appelé, j'ai pas scruté ce qu'il faisait, c'était...
Est-ce qu'il y a de la caféine, du coup, est-ce que ça réveille quand même? Donc en fait, non, ça ne réveille pas.
No caféine.
Par contre, ça a le goût.
Ouais.
Donc, c'est un déca, déca...
Exactement.
Végétal, local. Veggie.
Le déca local.
Le déca veggie.
Voilà.
Et tu vas l'appeler comment, du coup?
Le cafief quand même.
Cafief.
Ah ouais, non, je vais le lancer quand même.
Ça se trouve, tu vas le mettre après en rayon dans les magasins, les distributeurs vont te l'acheter.
Mais j'ai plein d'idées après là-dessus, parce que je me dis, il y a aussi, Fief, ça, c'est ça, au-delà d'être un restaurant, ça peut être typiquement une marque. Je vois tout ce qui se passe au niveau du cosmétique, au niveau des...
Tu te verrais lancer une marque?
Ah ouais, sans aucun problème.
En fait, t'es un entrepreneur. T'es un restaurateur-entrepreneur.
Bah moi, c'est...
Marketeur.
Moi, je crois plus au cuisinier qui reste toute sa vie derrière le fourneau. Pour moi, c'est terminé, ça. Je crois au... De toute façon, faire de l'argent avec un restaurant, je pense que c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'il faut en ouvrir plusieurs.
Comme l'ont fait d'ailleurs, comme l'a fait Julien qu'on a...
Ouais, mais Julien, c'est un restaurateur-entrepreneur, effectivement, aussi.
Tout à fait.
Donc, moi, je crois à ça. Il faut ouvrir des concepts, fermer, rouvrir. Je crois pas au restaurant unique. Pour moi, ça c'est. Ou alors, il y a vraiment un produit phare, comme ou un chef exceptionnel, comme on voit Paul Bocuse. Voilà, Paul Bocuse a quasiment 100 ans.
Finalement, quand les gens y vont pour le personnage. Donc, il y a l'ambassadeur qui est derrière le restaurant. D'ailleurs, Fief ne marcherait sans doute pas sans toi. Les gens viendront au début pour toi parce que
ah oui c'est sûr non mais c'est sûr qu'au début je dois y être, ça c'est évident, je vais pas partir au bout de deux semaines genre,
tour du monde
ciao les gars non mais voilà, en revanche je pense vraiment qu'il faut je crois effectivement au cuisinier entrepreneur maintenant.
Et donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Oh bah plein de choses hein. Déjà que je sois plein, que je sois dans mes chiffres. Et puis après.
La première année est toujours dure, non? Ou c'est l'inverse, ou ça peut être après justement.
Je sais pas trop. Je pense que toutes les années sont difficiles. La première, effectivement, ça va être l'ouverture, donc il va falloir tout de suite fidéliser son personnel, essayer de faire en sorte qu'il parte pas tout de suite, parce que c'est terrible, je pense, d'ouvrir, de mettre en route la machine, et puis après, les mecs ils font ciao, moi j'en peux plus de tes 6 mois d'ouverture. Je vais voir ailleurs. Et puis là, on recommence. Au final, reformation de personnel. C'est complexe. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder... là, j'ai commencé mon recrutement, de garder mon équipe le plus longtemps possible, de faire les chiffres que j'espère. Et puis, potentiellement, après, le développement de la marque. Ouais. Parce que je considère vraiment ça comme une marque.
Est-ce que, du coup, tous les salariés seront ambassadeurs du Fief? Pas.
Comment ça?
C'est-à-dire qu'est-ce que tous vont pouvoir sur leurs médias sociaux communiquer sur le restaurant, etc.
Bien sûr, mais il y a aucun problème là-dessus. Plus on en parle, mieux c'est.
Plus c'est incarné aussi.
Et puis au-delà des produits, je pousse aussi sur d'autres choses. Je pousse sur par exemple nos arts de la table sont français. Je pousse sur une partie de notre mobilier, sur les tabliers, les serviettes, enfin voilà, on essaie vraiment aussi de faire travailler diverses entreprises autour du projet.
Super, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.